Mitigé ce mardi, oui, la pluie qui arrive, elle est annoncée aujourd'hui, pluie d'annoncée ce matin, cet après-midi aussi, sur le Finistère, nuages gris, mais aussi de la douceur, mine de rien. Entre 10 et 12 degrés ce matin, rien à voir avec hier, hein, côté température, et pour cet après-midi, pas plus de 13 degrés à Brest et 14 à Lorient, toujours sous quelques averses. On va détailler tout ça, bien sûr, après l'info avec vous ce matin, Angeline Demuingue, le Stade Brestois en mode Ligue des Champions.
Oui, les Tisef ne pensent plus qu'à ça, décrocher un ticket pour la prestigieuse compétition européenne. À ce stade et après sa victoire contre Rennes dimanche, Brest est assuré de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain, sans savoir encore laquelle. Il faut être dans les trois premiers de Ligue 1 pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions, sinon ce sera la Ligue Europa. Qu'importe pour Anne Jaffray, mythique supportrice des Rouges et Blancs, âgée de 90 ans, une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, c'est déjà incroyable.
C'était bouillant. Bref, ils prennent deux buts tout de suite. On s'est dit, bon, ben ça y est, ils vont attraper plein la musette, comme on dit, quoi. Hein. Quelques minutes après, on arrive où on marque, Rennes revenait. Pour Brest, c'était déjà un match nul, c'était déjà pas mal. Il leur fallait un point pour être européen, donc là, le point était déjà acquis. Et là, bon, ben ça a été l'explosion. Personne ne s'attendait à ça. Hein. C'était un beau match. On jouait au foot. Ces joueurs-là, ils n'oublieront jamais ce match. Jamais. Jamais. On va parler plus du Stade Brestois, des plus petits budgets du groupe et qui sont arrivés là, personne ne croyait.
Alors comment le Stade Brestois en lutte pour le maintien ces dernières années a pu en arriver là, dans le top 3 de Ligue 1 à 3 matchs de la fin de saison, en se focalisant à nouveau sur le terrain plutôt que sur les décisions arbitrales? En résumé, priorité au mental, explique Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l'équipe.
Quand on n'a pas l'habitude d'être à cette place, le plus difficile, c'est justement gérer ses émotions. Il y a des équipes qui sont prêtes et qui sont préparées. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'on apprend à travers la compétition. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a toujours des pensées de se dire est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on va réaliser. C'est vrai qu'on est passé par beaucoup d'étapes ces derniers matchs. Mais comme on le disait aussi, il était important de se concentrer sur les prestations de l'équipe, autres que des sujets qui pouvaient porter à, on va dire, à confusion, notamment sur l'arbitrage. Et je pense que on a su rectifier le tir et les joueurs ont su bien répondre présent par rapport à ça.
Le prochain match du Stade Brestois, ce sera samedi soir à Le Blé contre Nantes. Une belle frayeur hier à Arzon dans le Morbihan. Un enfant de 9 ans est tombé de la cale dans le port. Une chute de 6 mètres de haut. Sain et sauf, il a été transporté au CHU de Vannes. À Banalec dans le Finistère, un incendie a fait un mort hier matin. Un homme d'une cinquantaine d'années. Sa compagne a, elle, réussi à s'extraire des flammes. C'est leur mobilhome qui a pris feu pour une raison encore indéterminée. Un adolescent et sa mère mise en examen hier après la mort d'un jeune de 16 ans à Châteauroux ce week-end. Lui pour meurtre, elle pour violence volontaire. Mathis a succombé à des coups de couteau samedi soir après une altercation.
La Bretagne veut développer le fret ferroviaire.
Et il faut dire que nous sommes un peu à la traîne en la matière. Un peu plus d'un million de tonnes de marchandises circulent en train chez nous, soit une part modale d'à peine 1,4%. C'est évidemment le transport routier qui est majoritaire en Bretagne. La région, la SNCF et des industriels locaux souhaitent changer la donne. Ils l'ont annoncé hier à Saint-Géran, près de Pontivy. Loïc Hénaff, le dirigeant de l'entreprise du même nom, est le conseiller régional chargé de ce dossier.
C'est une décarbonation très rapide et très immédiate. Tout le monde a envie de décarboner. Et donc à court terme, il y a la région Bretagne va investir 64 millions d'euros. On n'a, je crois, jamais autant investi sur le fret ferroviaire depuis qu'il y a des rails en Bretagne. Les lois de la physique nous rappellent que les frottements d'un wagon sur ces rails sont 50 fois moins importants que les frottements d'un pneu sur la route. Donc naturellement, ça consomme déjà beaucoup moins d'énergie. Par contre, ça coûte cher en infrastructure. Le transport camion, il s'avère extrêmement pratique. Il n'y a pas moins cher. Aujourd'hui, mais demain, ce ne sera pas le cas, parce que les énergies fossiles seront forcément plus chères. Quand on a des enjeux d'énergie, quand on a des enjeux tels qu'ils s'annoncent à nous de climat, le ferroviaire, il n'y a pas mieux. Mais ça ne s'adressera pas à tout. Ce qu'on veut faire, c'est multiplier par 6 jusqu'en 2050. Et donc là, il faut pousser, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant les 15 prochaines années.
Voilà la région qui espère donc faire passer la part modale de transport ferroviaire à 7,5% d'ici à 2050. Et puis il y a le fret maritime, lui aussi concerné par la décarbonation. À Concarneau, les chantiers Piriou vont construire 6 nouveaux voiliers cargo pour le groupe Thott. Les deux premiers doivent être livrés cet été. L'armateur breton sera alors à la tête de la plus grande flotte de voiliers cargo au monde. On vous détaille ça tout à l'heure. à l'heure dans les infos de 7h. Les agriculteurs de nouveau dans la rue cet après-midi à l'appel de plusieurs organisations dont la Confédération Paysanne et Eaux et Rivières de Bretagne. Le rendez-vous est donné à 13h aujourd'hui devant la préfecture du Morbihan à Vannes. Ils réclament à l'État le versement effectif des aides de la PAC. Attention, si vous êtes salarié, cela risque de vous faire bondir. En 2022, les PDG des entreprises du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus d'argent que leurs employés. C'est ce qu'assure le rapport annuel de l'ONG Oxfam publié ce matin et qui dénonce des écarts indécents, Max Martin.
C'est l'entreprise Téléperformance qui réalise le plus grand écart. En 2022, le PDG du leader mondial des centres d'appel, Daniel Julien, a touché 20 millions d'euros. C'est 1453 fois plus que le salaire moyen de l'entreprise. Un écart spectaculaire car Téléperformance possède le salaire moyen le plus faible du CAC 40. Dans ce classement, Carrefour arrive deuxième. Le salaire d'Alexandre Bompard est 426 fois plus élevé que le salaire moyen des employés. Le géant de l'automobile Stellantis complète le podium. Les revenus de Carlos Tavares sont 341 fois plus élevés que le salaire moyen de l'entreprise. En moyenne, le salaire des patrons du CAC 40 a augmenté de 27% entre 2019 et 2022, alors que les salaires moyens n'ont augmenté, eux, que de 9%. Oxfam réclame d'encadrer les revenus des dirigeants ou encore de garantir un salaire décent pour les salariés.
À noter aussi un écart important entre les hommes et les femmes. Les PDG hommes ont gagné en 2022 2,4 fois plus que leurs consoeurs. Chez nous, les patrons se sont prêtés au jeu du job dating inversé hier. Deuxième édition du salon Recrute ton boss à Fouesnant dans le sud Finistère. Des patrons qui ont tenté de convaincre les 90 candidats présents de venir travailler chez eux pour la saison. Et mieux vaut soigner ses arguments, confie Aurélie Guéguin, la directrice commerciale des Vedettes de l'Audet.
C'est un autre format, c'est convivial et je pense que c'est plus confortable pour les candidats, c'est moins stressant. Parce que c'est pas eux qui parlent, c'est nous qui parlons, donc c'est plus accessible. Pour convaincre les candidats qui se présentent, on va leur parler du cadre de travail. On travaille quand même en bord de mer, quand on est dans les guichets, sur les bateaux, quand on est embarqué. Et puis on va aussi parler des conditions de travail. Donc c'est vrai qu'aux Vedettes de l'Audet, le personnel sédentaire qui est au guichet a 2 jours de repos consécutifs et 3 demi-journées de repos. On a plutôt tendance à parler des jours de repos que des jours travaillés pour les motiver. Le recrutement tous les ans, c'est l'éternel recommencement. On reconstruit une entreprise en fait, on repart un petit peu à zéro. Donc les profils que j'ai repérés aujourd'hui, je vais les recontacter dans les prochains jours pour leur proposer un entretien d'embauche individuel, puis rentrer dans les détails de leur candidature.
Aurélie Guéguin avec Élodie Papin.
Et pour la suite, un abandon hier sur The Transat.
Oui, la course à la voile en solitaire partie dimanche de Lorient direction New York. Sébastien Marseille est en train de rentrer sur Port-la-Forêt. Il jette l'éponge pour raison médicale. Jérémy Bayou n'est pas loin derrière. Le skipper de Charal, victime d'une avarie sur son étai, le câble qui tient l'une des voiles de son Imoca, rentre à Lorient dans l'espoir de réparer et de repartir au plus vite. Il veut être au départ de la Transat retour New York-Vendée fin mai.